Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce n'a pas été vaine en moi. Mes très chers frères, ces jours que nous vivons sont des jours de grande fête pour les religieux de notre famille, la famille de Saint-Augustin. Hier, c'était la fête de Sainte Monique, qui, par ses larmes et ses supplications, a mérité d'être deux fois la mère de Saint-Augustin, puisqu'elle est sa mère selon la chair, et sa mère aussi par la charité, puisqu'elle a enfanté à la vie éternelle par ses supplications. Et aujourd'hui, dans le calendrier de notre famille, c'est la fête de la conversion de notre Père Saint-Augustin. Vous savez que notre Père Saint-Augustin avait... son père était païen et sa mère était chrétienne. Par la vertu de Sainte Monique, par sa soumission à son mari, par sa douceur et sa résignation, elle a obtenu que son mari, un peu avant de mourir, eh bien, devienne chrétien. Et de même, elle a obtenu que son fils, qui n'était pas chrétien et qui n'avait pas les mœurs d'un chrétien, devienne chrétien. Mais le diable a retenu notre Père Saint-Augustin 33 ans dans le monde et 10 ans dans l'hérésie manichéenne, de telle sorte que la conversion de notre Père Saint-Augustin a été un miracle de la grâce. Toutes les conversions, comme nous allons le voir, sont des miracles de la grâce, mais particulièrement pour notre Père Saint-Augustin, puisque, comme vous le savez, il n'a été baptisé qu'à l'âge de 33 ans. Avant cela, il n'était pas baptisé, et même, comme je l'ai dit, il a passé quelques années dans une fausse doctrine. Il était un professeur de rhétorique, très habile, très réputé. Et vous savez que, étant à Carthage, il est allé à Milan pour poursuivre ses études et poursuivre sa carrière. Et là, il a écouté assidûment les sermons de Saint Ambroise, qui était alors archevêque de Milan. Et petit à petit, après avoir parlé, après avoir avec ce saint évêque, l'avoir vu vivre aussi, eh bien, il a expérimenté ce que nous appelons la conversion, de telle sorte que à la fête de Pâques suivante, il a été baptisé par saint Ambroise, et il a, à partir de là, mené cette vie très pure, très sainte. Lui qui était dans la dissipation jusque-là, il a mené cette vie très pure, très sainte, qui a fait de lui un père de son Église, puisqu'il est devenu prêtre et évêque, un père de l'Église, puisqu'il est le plus grand des pères d'Occident, et aussi le père des religieux que nous sommes, puisque c'est lui qui nous a donné notre règle, et c'est lui qui est notre saint patron auprès de Dieu pour intercéder pour notre famille. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons à voir plusieurs choses aujourd'hui, non pas tellement sur l'histoire de notre Père Saint-Augustin, que vous connaissez, mes très chers frères, et que l'on peut trouver dans tous les bons livres qui relatent sa vie. Encore une fois, les anciens livres, pas les nouveaux, parce que les nouveaux livres sont toujours empreints de psychologie, ils veulent réduire la personne de notre Père à une sorte de conversion. Une sorte de psychologie étrange. Saint-Augustin a eu la même conversion, mutatis mutandis, que Saint-Paul. Et c'est moins l'histoire de Saint-Augustin qui nous intéressera aujourd'hui que les leçons que nous avons à tirer de la conversion de notre Saint-Père Augustin. Alors, en premier point, nous aurons à voir quelle est la doctrine sous-jacente à la conversion. Et nous verrons que nous devons la connaître afin de prier efficacement pour la conversion de notre prochain. Et puis, nous verrons aussi un certain nombre d'erreurs en la matière, en ce qui concerne la conversion ou la conversion des gens. Le deuxième point que nous verrons avec l'aide du Saint-Esprit sera le suivant. Pourquoi Dieu sauve-t-il? Quelle est la raison pour laquelle Dieu... Et ensuite, quelle est la raison pour laquelle Dieu ordonne que ses enfants, les chrétiens, prient pour les pécheurs, prient pour la conversion de leurs prochains? Et nous terminerons par un troisième point qui consistera de savoir en quoi consiste une véritable conversion, comment elle se vérifie, et nous verrons aussi certaines marques d'une conversion inauthentique. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Comme vous le savez, mes très chers frères, nous suivons le missel des Augustiniens, qui est le missel romain, mais il y a quelques fêtes de notre Père Saint-Augustin en particulier, qui ne se trouve que dans ce missel et qui est le nôtre. Et dans la messe du 5 mai, qui est la fête de la conversion de notre Père Saint-Augustin, eh bien, nous trouvons une oraison qui ne se trouve que là, et qui est une oraison qui fera l'objet de notre étude, de notre attention aujourd'hui. Deus qui ineffabili providentia beatum Augustinum ab errorum tenebris ad lucem evangelicae veritatis aduxisti da nobisque subus, ut qui eius odie conversionem recolimus, eius dem apute precibus actus nostros in melius reformemus. Qui signifie Dieu, ô Dieu qui, par une ineffable providence, avait conduit Saint Augustin des ténèbres de l'erreur à la lumière de la vérité évangélique. Donnez-nous, nous vous en prions, que nous qui faisons mémoire aujourd'hui de sa conversion, nous puissions, par ses prières, réformer nos actions en mieux. Voilà une raison très intéressante. Mes très chers frères, nous devons prier pour les pécheurs. Si nous sommes ici, réunis en ce jour pour fêter la fête de Saint-Augustin, et plus général pour assister à la messe, c'est que nous sommes chrétiens. Nous sommes déjà passés par diverses étapes qui font de nous des chrétiens affermis, qui plus est des religieux, de telle sorte que nous situons, nous qui écoutons, nous qui parlons et vous qui écoutez, nous nous situons dans le camp, si j'ose dire, des chrétiens, et si j'ose dire des bons chrétiens, Dieu seul sait, mais des chrétiens, disons, des chrétiens qui n'en sont pas à leur début. Et nous savons que, entre autres devoirs du christianisme, que le christianisme nous fait, est celui-ci, nous avons celui-ci, qui est de prier pour pour ceux qui sont dans les ténèbres. Pour nos frères, de façon très très large, c'est-à-dire pour nos futurs frères, pour nos frères selon la chair, d'une certaine manière, pour nos proches, pour notre prochain lointain et prochain, pour notre famille, pour nos familles, etc. Pour tous ceux, si nous devons prier pour nos frères selon l'esprit, ce qui est vrai, mais nous devons aussi prier, avoir des prières pour ceux qui ne sont pas nos frères, et pour ceux qui sont encore les enfants du diable. Nous devons prier pour eux, et nous devons prier pour eux selon un certain ordre, c'est-à-dire que nous devons d'abord prier pour notre famille, ensuite pour ceux qui nous touchent de plus près, et ensuite, d'une façon générale, pour tous les hommes. Pourquoi prier? Puisque c'est un devoir, nous pourrions même nous dispenser de nous poser la question, pourquoi prier? Il faut prier, prions. C'est la bonne attitude. Néanmoins, nous pouvons nous poser la question, pourquoi prier? Eh bien, la réponse est très simple, c'est parce que Dieu veut les convertir. Dieu veut convertir un certain nombre d'hommes et il nous demande de prier pour que leur conversion se réalise. Il y a là quelque chose de mystérieux dont nous essaierons de débrouiller quelque peu la complexité, mais nous ne pourrons pas tout dire aujourd'hui de ce mystère, de telle sorte qu'un certain nombre de choses resteront non élucidées, disons en tout cas par le sermon. Il ne faudrait pas penser que nous ne les avons pas élucidés parce qu'il n'y a pas de réponse ou parce que nous n'y avons pas pensé, mais nous ne pouvons pas parler de tout non plus tout le temps, sinon il faudrait des sermons de plusieurs années à chaque fois, ce qui n'est quand même pas tout à fait raisonnable. Donc Dieu veut que nous prions pour que Dieu, le même Dieu, convertisse ceux qui doivent être convertis. Donc pour nous, nous ne nous occupons pas tellement de ce qui se passe dans la logique divine, si j'ose dire, en tout cas pour aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des religieux, nous devons prier. Pourquoi prier? Parce que Dieu veut convertir. Comment prier efficacement? Eh bien, mes très chers frères, nous savons que on ne prie efficacement que lorsque l'on comprend comment se réalisent les conversions, comment se réalise la conversion de l'homme. C'est pour ça que nous devons connaître la doctrine sous-jacente à la conversion. Dans les complis que nous disons tous les jours, l'office de complis, nous disons à un certain moment, après le confiteor, « Converte nos Deus salutaris noster, et averte iram tuam anobis ». Toute la doctrine de la conversion se trouve résumée dans ce verset et se répond, qui se traduit littéralement par « Convertissez-nous, Dieu qui est notre salut », et le répond est « Et détournez de nous votre colère, et averte iram tuam anobis, et détournez de vous, de nous votre colère. Nul ne peut prier efficacement pour son prochain. Écoutez bien, mes très chers frères, parce que c'est très important. Celui qui a compris cela ne convertira pas forcément plus de monde, mais il priera efficacement pour la conversion de ceux qui doivent être convertis. Celui qui a compris cela, d'une certaine manière, comprend comment il doit prier. Devant tout pécheur, devant tout homme naturel, devant tout enfant du diable, devant tout homme non baptisé et tout homme baptisé mais qui ne vit pas conformément aux maximes de l'Évangile, devant tout pécheur, dis-je, se tient un Dieu en colère qui refuse de lui donner autre chose que le salaire de son péché. Voilà le tableau fondamental que nous devons avoir à l'esprit lorsque nous intercédons pour les pécheurs, lorsque nous prions pour les gens qui ne sont pas convertis, que lorsque nous prions pour la conversion des gens. Imaginez et ayez dans votre esprit les personnes pour lesquelles vous priez, mes très chers frères, et avant de penser à quoi que ce soit d'autre, pensez qu'elles se tiennent toutes seules dans un dénuement absolu. Elles ne s'en rendent pas compte, mais c'est le cas, et nous le voyons parce que nous sommes dans la lumière de Dieu, devant un Dieu en colère qui refuse absolument de leur donner autre chose que le salaire de leur péché. Le salaire du péché, c'est la mort, dit l'Écriture. Nous devons donc comprendre que lorsque nous intercédons pour les pécheurs, nous intercédons pour eux auprès d'un Dieu qui, a priori, ne veut pas d'eux chez lui. Vous allez dire, c'est curieux, pourquoi est-ce que Dieu nous demande alors de prier? N'allez pas trop vite, mes très chers frères, vous savez que Dieu nous demande de prier, donc, il y a bien une logique. Mais avant d'aller plus loin, souvenons-nous que si Dieu nous demande de le prier, de convertir notre prochain, c'est parce que, d'une certaine manière, il ne le veut pas. Il ne le veut pas, et c'est en toute justice, parce que Dieu ne veut pas de faire du bien à quelqu'un qui fait le mal. Dieu ne veut pas faire fructifier en lui la charité pour quelqu'un ou dans quelqu'un dans lequel ne fructifie que le fruit empoisonné, que la graine ou que la semence empoisonnée de la concupiscence. Dieu voit tous les pécheurs, Dieu voit les mécréants, Dieu voit les non-baptisés, Dieu voit les mauvais chrétiens, Dieu voit les gens qui ne sont pas convertis, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas membres vivants du corps mystique du Christ. Il les voit et sa colère est ardente contre eux, de telle sorte qu'il refuse de leur donner autre chose que le salaire de leur péché. Parce que Dieu est saint. Et que la sainteté de Dieu a horreur du péché. Elle est incompatible avec le péché, ou plus précisément, le pécheur est incompatible avec la sainteté de Dieu. Dieu a horreur du péché et du pécheur, dit l'Écriture. Après, il y a d'autres formules qui sont vraies aussi, mais n'oublions pas ceci. Le pécheur, c'est celui qui pratique le péché, et le péché souille celui qui le pratique. Et Dieu a horreur du péché, et de toutes les souillures qu'il provoque. Donc Dieu ne fait pas abstraction du péché dans les pécheurs, Dieu voit très bien et mieux que quiconque, et surtout mieux que les pécheurs, le péché dans le pécheur. Or, le péché est une offense faite à la sainteté de Dieu. Devant tout pécheur se trouve un Dieu en colère qui refuse de lui donner autre chose que le salaire de son péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est la transgression de la loi, dit saint Jean. Le péché, c'est aussi l'aliénation de la nature humaine, faite pour Dieu. Quiconque pêche est en horreur à Dieu, parce que Dieu est saint. Quiconque pratique la vertu, mais non pas pour l'amour de Dieu, est encore plus en horreur à Dieu, parce que loin de se vautrer dans le mal, il fait le bien indépendamment de Dieu, de telle sorte que ce bien vaut, du point de vue de Dieu, plus grave que le péché. D'une certaine manière, que vaut-il mieux dans l'absolu, enfin dans la relativité du monde qui se perd, que vaut-il mieux, quelqu'un qui se vautre dans le péché ou quelqu'un qui est un propre juste? Eh bien, d'une certaine manière, dans l'ordre de ceux qui se perdent, il vaut mieux encore ceux qui pêchent que ceux qui se glorifient de leur justice. Il vaut mieux un misérable qui se vautre dans l'abjection du péché, plutôt que quelqu'un qui se croit juste et qui méprise Dieu du haut de sa justice. Alors je ne dis pas que c'est un choix et que ceux qui m'entendent et qui ne sont pas convertis peuvent faire le choix et puis qu'ils peuvent choisir le péché. Il se trouve que c'est un fait. Il y a des hommes qui se vautrent dans le péché et ce sont des porcs. Et il y a des hommes qui pratiquent la vertu et ce sont des orgueilleux. Or Dieu, dit l'Écriture, a l'orgueil en horreur. Il a le péché en horreur, mais l'orgueil est une sorte d'usurpation de la dignité divine. Celui qui pêche, celui qui se vautre dans le péché, par certains côtés, sait qu'il pêche. Et le plus grand des pécheurs, et qui est le plus endurci dans le péché, n'est pas sans avoir à certains moments un vague remords de ce qu'il fait. Mais l'homme vertueux sans Dieu n'a aucun remords de sa vertu. Au contraire, chaque jour qui passe et chaque fois qu'il évite le mal, disons, sinon le péché, puisqu'il est tout entier péché, évidemment, mais chaque fois qu'il évite le mal et qu'il fait le bien, il s'enorgueillit et il s'endurcit contre Dieu parce qu'il s'endurcit dans l'idée qu'il n'a pas besoin de Dieu pour être vertueux. Donc dans l'absolu, l'homme vertueux sans Dieu est mille fois pire que le pécheur qui se vautre dans le péché. Mais devant les deux se tient un Dieu en colère qui refuse de les sauver, qui refuse de leur donner autre chose que le salaire de son péché. Il le refuse de tout son être. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, il ne peut pas autre chose que être en colère contre eux. Dieu est courroucé contre le vol, contre l'usurpation. Le vol, qu'est-ce que c'est ? Et l'usurpation, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on utilise la nature humaine, lorsque l'homme utilise sa nature humaine pour faire autre chose que vivre à la gloire de Dieu exclusivement. Nous devons donc, mes très chers frères, lorsque nous prions pour notre prochain, parce que nous le devons, parce que c'est Dieu qui nous en fait un devoir, nous devons prier pour notre prochain en comprenant que, a priori, Dieu ne lui doit plus rien. Dieu ne lui doit rien.